Les hiérarchies spirituelles et leur reflet dans le monde physique. Quatrième conférence, au soir du 13 avril 1909. Si nous nous souvenons de ce qui a été dit dans la dernière conférence, les conditions régnant sur l'ancien Saturne nous deviendront plus claires, ainsi que la manière dont certaines entités peuvent être tantôt libérées, tantôt emprisonnées dans la matière. Rappelez-vous ce qui a été dit. Si sur l'ancien Saturne, les esprits de la personnalité avaient entièrement réaspiré les œufs de chaleur sans en rien laisser subsister, Saturne tout entier aurait été ramené, à la fin de son évolution, à l'état purement spirituel. Or, cela n'est pas arrivé. Les esprits de la personnalité ont imprimé leur sceau sur la totalité de l'ancien Saturne plus intensément qu'ils n'auraient dû le faire, en y laissant quelque chose d'eux-mêmes sans le réabsorber. Ce quelque chose, qui n'a pas été réabsorbé, sont les corps de chaleur extérieurement perceptibles. Quelle est donc la force qui agissait dans les esprits de la personnalité sur l'ancien Saturne ? Ce n'est pas autre chose que ce que nous connaissons aujourd'hui chez l'homme comme la force de la pensée. Car sur l'ancien Saturne, les esprits de la personnalité ne font rien d'autre qu'exercer leur puissance de pensée. Si les œufs de chaleur se forment, c'est parce que ces esprits suscitent en eux-mêmes la représentation de ces œufs. Mais cette force de représentation est chez eux beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est chez l'homme d'aujourd'hui. Quand l'homme se fait une représentation, une forme n'apparaît que dans l'astral. Sa vie ne s'étend pas au-delà. Aussi, ne peut-on pas en constater physiquement l'existence. Sur l'ancien Saturne, les esprits de la personnalité étaient de puissants magiciens. Par l'intensité de leurs pensées, ils ont donné forme aux œufs de chaleur saturniens, et par cette même puissance, ils les ont fait subsister en dehors d'eux. C'est donc cette force des esprits de la personnalité qui a abandonné des restes de l'ancien Saturne, et ces restes ont sans cesse réapparu, tout d'abord pendant l'évolution solaire. Il devient dès lors très compréhensible qu'un être qui en réalité en est au degré d'humanité ait pu tirer de son milieu ambiant des formes, car ses œufs étaient bien tirés de ce qui entourait Saturne, et qu'elles aient été ensorcelées, emprisonnées, en attendant une nouvelle existence. Les choses étant encore peu embrouillées à ce niveau, ce qui a été exposé hier apparaît plus nettement. Nous dirions ici, vois le feu de Saturne, vois ce qui, faisant partie de ce feu saturnien, est sans cesse spiritualisé, ce qui retourne sans cesse à l'état de chaleur intérieure, de chaleur d'âme, de sentiment d'aise, cela s'élève dans les mondes spirituels. S'il n'y avait eu que cela, tout Saturne aurait disparu dans ces mondes supérieurs. Mais ce qui devient chaleur perceptible, ce qui se condense en chaleur extérieure, doit renaître, réapparaître, et réapparaît effectivement sur le Soleil. Pour en revenir à ce qui a été évoqué aujourd'hui, nous avons vu que sur cet ancien Soleil, les entités que nous appelons archanges ou esprits du feu ont passé par le stade humain. D'une part, l'élément chaleur s'est condensé jusqu'à devenir fumée, gaz, ce qui fait du Soleil un globe de gaz. Et d'autre part, le gaz s'enflamme, de telle sorte que la lumière se répand dans l'univers. Ce sont précisément les archanges ou esprits du feu qui vivent dans cette lumière en expansion, qui aspirent et expirent cette lumière, y trouvant ainsi leur vie. Si l'on avait alors pu voyager à travers l'espace cosmique, on aurait vu cet ancien soleil briller de loin, tandis qu'en lui, des courants de gaz auraient été perceptibles, comme si le corps solaire tout entier brillait. Représentons-nous bien cet ancien Saturne et cet ancien Soleil. Il y a dans ces deux corps planétaires de la vie, de l'activité. Il s'y passe quelque chose. Nous avons vu que sur l'ancien Saturne, des formes ovoïdes étaient apparues, puis avaient disparu, à l'exception de certains restes. Celui qui aurait pu observer cette activité interne se serait dit qu'en réalité, tout Saturne était un seul grand être vivant. Il vivait, vivait par lui-même et tirait sans cesse des formes de sa propre vie. Il en est de même, et dans une certaine mesure encore plus grande, pour l'ancien Soleil. Celui-ci se présente comme un tout qui passe alternativement par des jours et des nuits, aspirant puis expirant de la lumière. Tout cela, si on avait pu l'observer, aurait donné l'impression de corps cosmique non pas mort, mais plein de vie. Or, si tout cela est vivant et se manifeste par une telle activité, si tout cela est animé de mouvements intérieurs, c'est parce que des êtres spirituels dirigent et conduisent ces mouvements. Nous avons dit, il est vrai, que les esprits de la personnalité avaient donné forme aux œufs de chaleur par la puissance de leur pensée. En effet, mais, c'est facile à comprendre, il faut bien que quelque chose ait existé tout d'abord, d'où tirer la substance de ces œufs. Cette substance, les esprits de la personnalité ne pouvaient pas la créer. Il fallait que d'autres êtres en aient fait l'offrande, aient émané d'eux la chaleur non différenciée, le feu lui-même. Les esprits de la personnalité n'ont fait que lui donner forme. Ils ont dû la recevoir d'ailleurs. D'où l'univers saturnien, donc surtout les esprits de la personnalité, donc d'où l'univers saturnien a-t-il reçu cette substance calorique, l'élément chaleur, le feu? Cela lui est venu d'esprits d'une essence supérieure, d'entités spirituelles qui ont atteint le stade humain à une époque si reculée que sur Saturne, il l'avait dépassé depuis longtemps. Pour nous faire une idée de ces êtres devenus sublimes, au point de pouvoir produire la chaleur, le feu de l'ancien Saturne, il faut avoir présente à l'esprit l'évolution humaine et procéder par comparaison, puisque l'homme, lui aussi, deviendra un jour un être divin. Nous savons que l'homme d'aujourd'hui, tel que nous le connaissons, est composé de quatre éléments dont nous avons souvent parlé et qui sont la clé de toute science spirituelle. Ce sont le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le moi. Nous savons ensuite comment l'homme se développe. Le moi agissant de l'intérieur pour transformer d'abord le corps astral, pour qu'il en devienne pleinement maître. Lorsque ce corps astral est métamorphosé au point d'être totalement dominé par le moi, nous disons que ce qu'il est devenu fait qu'il porte en lui le moi spirituel, ou manas. Maîtrisé par le moi, un corps astral devient moi spirituel ou manas. Il en est de même du corps éthérique. Lorsque le moi agit d'une façon encore plus intense, il maîtrise les forces de résistance du corps éthérique qui se transforme alors en esprit de vie ou bouddhi. Enfin, quand le moi devient maître du corps physique, quand il a vaincu la résistance la plus forte, celle du corps physique, l'être humain porte encore en lui l'homme-esprit ou atma. L'homme qui a ainsi transformé son corps physique en atma est composé dès lors de sept éléments. Extérieurement, le corps physique se présente encore dans sa forme physique. Mais intérieurement, il est totalement maîtrisé par le moi et pénétré de son feu. Il est donc en même temps corps physique et atma. Le corps éthérique est à la fois corps éthérique et esprit de vie ou bouddhi. Le corps astral est en même temps corps astral et moi spirituel ou manas. Quant au moi, il est devenu le maître de l'ensemble. C'est ainsi que l'homme s'élève à des degrés supérieurs d'évolution, qu'il se transforme lui-même, qu'il travaille à sa déification, selon l'expression de Denis l'Aréopagite, l'ami et disciple de saint Paul. Mais même alors, son développement n'est pas achevé. Même celui qui sera assez avancé pour avoir acquis la maîtrise complète de lui-même, c'est-à-dire qui dominera entièrement son corps physique, se trouvera devant des degrés d'évolution encore supérieurs. Le regard spirituel s'élève vers des hauteurs spirituelles, vers des êtres surhumains, de plus en plus puissants, de plus en plus majestueux. En quoi consiste au fond le fait que des êtres deviennent de plus en plus puissants? Cela consiste en ceci, que d'abord ils sont en quelque sorte indigents, nécessiteux. Après avoir éprouvé le besoin de demander quelque chose à l'univers, ils se sont assez développés pour être en mesure de lui donner quelque chose. C'est au fond en cela que consiste le sens et l'esprit de l'évolution. On passe du prendre au donner. Il y a là une analogie avec la vie d'un être humain entre sa naissance et sa mort. L'enfant naît impuissant. Il lui faut tout recevoir de ceux qui l'entourent. En grandissant, il sort graduellement de cet état d'impuissance et devient à son tour une aide pour son milieu environnant. Il en est de même pour la grande évolution de l'humanité dans l'univers. L'homme existait sur Saturne en tant que tout premier germe physique. Il a dû se laisser donner, pour ainsi dire, les premiers rudiments de son humanité. Il en a été de même sur l'ancien Soleil et l'ancienne Lune. Sur la Terre, il a reçu son moi, et depuis lors, il se prépare peu à peu à agir par ce moi sur ses corps astral, éthérique et physique. Il devient ainsi peu à peu un être capable de donner. Il participe alors au pouvoir universel, cosmique, de donner. Il passe du prendre au donner. Les entités dont il a déjà été question, les archanges, nous offrent un exemple de cette évolution. Ils se sont suffisamment développés sur le Soleil pour pouvoir répandre la lumière dans l'espace universel. L'évolution progresse donc du prendre au donner, mais pour ce qui est du donner, la chose va très loin. Quand des êtres ne peuvent donner, disons que leur pensée, ce n'est pas encore grand-chose. Car si l'on en reste là, donner des idées, même en grand nombre, ne change rien à ce qui était. On n'a rien donné de visible, de substantiel, au sens élevé du mot. Mais il vient un moment où des êtres peuvent donner autre chose que leur pensée, c'est-à-dire par exemple ce dont les esprits de la personnalité avaient précisément besoin sur l'ancien Saturne. La substance feu, chaleur. Quel être était donc à un niveau si élevé d'évolution qu'ils aient pu tirer de leur propre corps cette substance de feu, de chaleur, de l'ancien Saturne? C'était ce que nous appelons trône. L'ancien Saturne se forme donc du fait que les trônes, venant de la périphérie cosmique, se rassemblent en un certain point de l'univers et font, en grand, pourrait-on dire, ce que fait dans une sphère plus humble le ver à soie quand il sécrète de son propre corps des fils de soie. Les trônes tirent de leur être la substance calorique qu'ils sacrifient sur l'autel de l'ancien Saturne. Quant aux esprits de la personnalité, ce qu'ils font en fin de compte sur l'ancien Saturne, c'est de donner la personnalité, la conscience du moi à cette chaleur. La substance même de la chaleur est venue confluer de tous les points de l'univers, du cosmos. Elle est issue de ces sublimes entités spirituelles que sont les trônes. Nous savons maintenant en quoi consistent les œufs présents sur l'ancien Saturne. Ils sont faits du corps même des trônes, offerts en sacrifice. Mais il n'aurait pas suffi que les trônes et les esprits de la personnalité aient été seuls à travailler pour que Saturne puisse être doué de vie et d'activité intérieure. Les esprits de la personnalité avaient le pouvoir de faire prendre forme à la substance calorique, mais ils ne pouvaient y parvenir à eux seuls. Pour produire cette énergie, cette activité intérieure de l'ancien Saturne, il a fallu le concours d'autres entités, moins élevées que les trônes, mais supérieures aux esprits de la personnalité, qu'elles ont eu pour mission d'aider. Nous pouvons nous faire une idée de cette aide si nous nous rappelons que nous avons directement au-dessus de nous les anges, puis les archanges, ensuite les principautés, les archées ou esprits de la personnalité, et que tous font partie de la hiérarchie qui nous est immédiatement supérieure. Les trônes ne viennent pas tout de suite après les esprits de la personnalité. Entre ceux-ci et les trônes, il y a des degrés intermédiaires. Tout d'abord, celui des entités que, selon Denis l'Aréopagite, nous appelons exousiai, ou puissance. Ceux-ci sont d'un degré supérieur aux esprits de la personnalité, par rapport auxquels ils sont ce que les anges sont actuellement pour nous. À un niveau plus élevé encore se trouvent les entités que nous appelons vertus, ou dynamis. Elles étaient sur Saturne, pour les esprits de la personnalité, ce que sont pour nous les archanges. Plus haut encore sont les esprits appelés domination ou kyriotétès. Sur l'ancien Saturne, ils étaient pour les esprits de la personnalité ou des origines, ce que ceux-ci sont actuellement pour nous. Ensuite seulement viennent les trônes. Toute une série d'entités existe donc sur l'ancien Saturne. Les esprits de la personnalité qui acquièrent et développent la conscience du moi, les trônes qui sont à 4 degrés au-dessus d'eux et d'où émane la substance chaleur-feu. Dans l'intervalle, afin que soit réglé et dirigé tout ce qui est vie sur Saturne, se trouvent, en allant de bas en haut, les puissances ou exousiai, les vertus ou dynamis, et les dominations ou kyriotétès. Telle est, pourrait-on dire, la population de l'ancien Saturne. De fait que cet ancien Saturne évolue et devient Soleil, comme il a été dit, les entités qui viennent d'être énumérées s'élèvent également d'un degré et les archanges parviennent au niveau humain. Extérieurement, on pourrait dire physiquement, la chaleur se condense en gaz. Le Soleil est un globe de gaz. Et tandis que Saturne était encore obscur, le Soleil commence à briller, mais avec des alternances de jour et de nuit solaire. C'est d'une grande importance car cela entraîne d'immenses différences dans les conditions de la vie. S'il ne s'était rien produit d'autre que ce que j'ai décrit dans la troisième conférence et que je viens de compléter, les archanges, c'est-à-dire les hommes d'alors, se seraient répandus dans l'univers avec les rayons lumineux du jour solaire et ils auraient été contraints, pendant la nuit solaire, de réintégrer le soleil. Il y aurait eu aspiration et expiration, non seulement de la lumière, mais aussi des êtres qui vivaient et agissaient dans cette lumière. Or, cela n'a pas été. Je voudrais maintenant caractériser, d'une façon simple, presque familière, la nature de ces archanges, de ces archangeloi. Ils se plaisent infiniment à se répandre ainsi, à planer dans l'univers. Ils préfèrent flotter, se dissoudre dans la spiritualité universelle, plutôt que de se retirer en eux-mêmes. Rentrer en eux-mêmes, c'est, leur semble-t-il, mener une existence comprimée, inférieure. Ils aiment bien mieux vivre dans les terres de lumière. Or, ils ne pourraient jamais se répandre ainsi dans l'éther lumineux au-delà d'une certaine limite, s'ils ne recevaient aucune aide. S'ils étaient livrés à eux-mêmes, il ne pourrait faire autrement que revenir sagement pendant les nuits solaires. Ils ne l'ont pourtant pas fait. Ils ont prolongé toujours un peu plus le temps de leur séjour dans l'espace cosmique. Qui donc leur est venu en aide? Supposons que ce cercle représente l'ancien soleil, d'où les archanges s'efforcent de sortir dans toutes les directions de l'espace cosmique. Leur essence se répand spirituellement dans l'univers. Pour les aider, d'autres entités viennent du dehors à leur rencontre. Tout comme l'élément feu des trônes est venu affluer vers l'ancien Saturne, d'autres entités viennent maintenant vers les archanges qui sortent du soleil, des entités encore supérieures au trône. Elles aident les archanges à rester plus longtemps dans le monde extérieur spirituel qu'ils ne pourraient le faire sans cela. Ces entités supérieures qui, de l'espace spirituel, sont ainsi venues au-devant des archanges, ce sont les chérubins. Ceux-ci sont d'un ordre tout particulièrement élevé, car ils ont le pouvoir, en venant à la rencontre des archanges, de les accueillir en quelque sorte à bras ouverts. Lorsque ces derniers se répandent vers le dehors, les chérubins viennent vers eux de l'espace universel, si bien que nous avons les chérubins entourant le globe solaire et se rapprochant de lui. De même que notre Terre est entourée de son atmosphère, l'ancien soleil était entouré par le règne des chérubins, bienfaiteurs des archanges. Quand ceux-ci se répandaient dans l'espace cosmique, ils contemplaient ces grands esprits qui venaient à leur aide. Sous quels aspects les voyaient-ils? Cela seul peut le savoir celui auquel sa clairvoyance permet de lire dans la chronique de l'Akasha. Des formes déterminées caractérisent les chérubins. Nos ancêtres, qui, grâce à leur tradition, avaient encore une certaine conscience de ces faits importants, les représentaient sous l'aspect d'étranges animaux dont chacun avait une paire d'ailes et la tête fortement modelée. Ce sont le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. En effet, c'est de quatre côtés que les chérubins venaient d'abord, et cela sous l'aspect qu'on a figuré par la suite et qui nous est connu. C'est pourquoi, dans les écoles des premiers initiés de l'ère post-atlantéenne, on désignait les chérubins qui, de quatre côtés, s'étaient ainsi approchés de l'ancien soleil, par des noms qui sont devenus plus tard taureau, lion, aigle, homme. Nous donnerons encore d'autres précisions à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de ces quatre sortes de chérubins qui venaient à la rencontre des archanges. Le tableau qu'offrait l'ancien soleil était donc celui-ci. Tandis que les êtres humains d'alors, les archanges qui le peuplaient, se répandaient dans l'univers, quatre groupes de chérubins venaient vers eux de quatre côtés, ce qui permettait aux archanges de se maintenir dans le monde spirituel qui entourait le globe solaire, plus longtemps que cela ne leur eût été possible sans cela. Car l'action qu'exerçaient ces chérubins sur les archanges était vivifiante, spirituellement vivifiante au plus haut point. Mais à mesure que les chérubins approchaient du soleil, leur influence se faisait encore sentir d'une autre façon. Une influence peut agir de diverses manières. Supposons que deux personnes se trouvent dans une même pièce. L'une désire qu'on chauffe, l'autre non. Mais comme elle est obligée d'y rester, elle en supporte la chaleur. C'est ainsi que les chérubins qui affluaient de l'espace universel agissaient, comme nous l'avons dit, sur les êtres de l'ancien soleil qui avaient évolué jusqu'à l'élément lumière et pouvaient y vivre. Mais il n'était possible aux chérubins d'agir sur cet ensemble lumière que pendant le jour solaire, tandis que la lumière se répandait dans l'univers. Pendant la nuit solaire, où la lumière ne se manifestait plus, les chérubins étaient présents au ciel. Le soleil s'obscurcissait, n'était plus que chaleur et gaz et ne brillait plus. À l'intérieur circulaient des courants de chaleur gazeuse. Tout autour se trouvaient les chérubins, dont l'action s'exerçait alors jusque dans cette masse gazeuse obscure. Lorsqu'ils ne pouvaient plus agir de façon normale sur les archanges, les chérubins agissaient sur la fumée, sur le gaz obscur du globe solaire. Alors que, pendant l'évolution saturnienne, des influences cosmiques s'étaient exercées sur la chaleur, elles s'exerçaient maintenant sur la chaleur condensée, c'est-à-dire le gaz de l'ancien Soleil. C'est à ces influences qu'il faut attribuer le fait que sur ce globe se sont condensés dans le brouillard solaire les premiers rudiments de ce que nous appelons aujourd'hui le règne animal. De même que le premier germe du règne humain, du corps physique humain, est apparu sur l'ancien Saturne dans l'élément chaleur, le premier germe du règne animal s'est formé dans l'élément gaz de l'ancien Soleil. C'est aux chérubins se reflétant dans ces gaz solaires que sont dues les premières ébauches, ressemblant à des fumées en mouvement, de corps d'animaux. Ainsi, les chérubins, cet ensemble d'entités sublimes qui entourait l'ancien Soleil, allaient d'une part les bras ouverts à la rencontre des archanges et, pendant la nuit solaire, tiraient d'une part de l'élément gaz les premiers rudiments physiques du règne animal, comme par une opération magique. Le règne animal émerge du brouillard solaire pour sa première forme rudimentaire. C'est pourquoi ceux de nos ancêtres qui, par les mystères, avaient connaissance de ces faits si importants de la cosmologie spirituelle, ont appelé cercle des animaux ou zodiaque l'ensemble des entités qui exerçaient leur action de tous les points du cosmos vers l'ancien Soleil. Telle est la signification originelle du zodiaque. Sur l'ancien Saturne, l'humanité apparaît pour la première fois en germe du fait que la substance dont est fait le corps physique humain est offerte en sacrifice par les trônes. Sur l'ancien Soleil, les premiers corps animaux s'ébauchent dans les fumées en mouvement, suscitées par les chérubins, reflétant leur image dans ces gaz solaires. Tout d'abord, les animaux reflètent sur le Soleil des images du zodiaque. Il y a une relation interne, réelle, entre le zodiaque et les animaux solaires en devenir. Nos animaux sont les descendants, la caricature en quelque sorte, de ces animaux solaires. En vérité, ce n'est pas au hasard qu'ont été donnés jadis leurs noms aux choses. Il ne faudrait pas croire que, dans l'Antiquité, les noms aient été inventés de façon arbitraire, fantaisiste. Aujourd'hui, quand on découvre un nouvel astre dans la série des astéroïdes, que fait l'astronome qui a eu la bonne fortune d'en constater la présence ? Il ouvre un dictionnaire et cherche dans la mythologie grecque un nom qui soit encore disponible afin de l'attribuer à cet astre. À l'époque où un nom devait être l'expression de la chose, époque où les mystères étaient encore puissants, jamais un nom n'était donné de cette façon. Aussi contenait-il toujours un sens profond. Les formes de nos animaux, si défigurées, si caricaturales qu'elles soient aujourd'hui, proviennent donc de ce qui entoure l'univers, du cercle zodiacal, tel qu'il existait alors. Mais vous pouvez remarquer que sur le schéma, voire page 93, ne figurent que quatre des noms du zodiaque. Ce ne sont en effet que les principales expressions des chérubins, car en réalité, chacun de ces chérubins a, pour ainsi dire, une suite, des accompagnateurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Représentez-vous chacune des figures principales flanquées de deux autres et vous aurez alors, à l'entour du soleil, 12 forces ou puissances qui existaient déjà en un sens au temps de l'ancien Saturne. Ces 12 puissances qui appartiennent au règne des chérubins ont à remplir leur tâche, leur mission dans l'univers, comme nous venons de le dire. vous pourriez ici demander ce qu'il en est des noms donnés habituellement aux signes du zodiaque. Il en sera question dans les prochaines conférences. Car il y a eu des changements dans la série de ces noms. Habituellement, on les énumère ainsi. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Puis viennent la Vierge et la Balance. Par suite d'une transformation ultérieure, l'aigle a dû prendre le nom de Scorpion. Cela pour des raisons tout à fait spéciales. Viennent ensuite le Sagittaire et le Capricorne. L'homme, pour des raisons que nous apprendrons aussi à connaître, s'appelle Verseau. Enfin, viennent les Poissons. On ne voit plus transparaître la véritable forme qui a donné naissance au cercle zodiacal que dans le Taureau, le Lion, un peu encore dans l'homme, appelé Verseau du point de vue exotérique. Pourquoi a eu lieu cette transformation dans le zodiaque? Nous le verrons par la suite. Ainsi, des entités spirituelles très élevées, les trônes, ont tout d'abord tiré de leur propre substance le feu primordial de l'ancien Saturne. Puis, des entités plus élevées encore, les chérubins, ont pu prendre en elles, absorber la lumière émanée en quelque sorte de cette substance ignée, et en transfigurer, en rehausser l'existence lumineuse. Mais chaque fois qu'une élévation se produit dans l'univers, il faut aussi qu'en compensation, un abaissement ait lieu. Afin que les archanges trouvent l'occasion de prolonger pendant le jour leur existence spirituelle, les chérubins doivent prolonger leur action pendant la nuit. Et les entités animales inférieures à l'humanité doivent s'exprimer par des formes d'animaux dans la substance de chaleur condensée en brouillard, en fumée, en gaz. Nous nous sommes ainsi fait, d'après la sagesse originelle, une première idée de la façon dont certaines entités cosmiques spirituelles ont collaboré pour agir sur notre propre globe. Et nous avons vu aussi que ce qui nous apparaît extérieurement, physiquement, doit toujours son existence à ces entités. L'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le zodiaque, d'une façon si matérielle, remonte au cercle des chérubins venus des confins de l'univers pour agir sur l'ancien soleil qui fit rayonner leur énergie dans cet univers en tant que puissance de la lumière. Nous avons donc dégagé l'importante notion de ce qu'est le zodiaque, et nous nous élèverons progressivement vers celles qui concernent les autres corps célestes et qui éclaireront de plus en plus le rapport de ces corps avec les hiérarchies spirituelles.